Vous écoutez
RMC.
RMC.
Les gens vont penser que c'est pas vrai. Florentino vient de m'envoyer un message du mariage de Ramos avec une vidéo de ses retrouvailles avec Beckham. Je vous jure que c'est vrai.
Fabinho qui est moins la lance de lancement, la rampe de lancement.
Ouais, juste pour conclure, il y a une phrase célèbre dans le foot qui est on joue comme on s'entraîne.
Évidemment.
Est-ce qu'on donne les clés du wagon à la locomotive à Malinovski?
20h-22h, Génération After.
Thibaut Giangrande.
Salut tout le monde, comment ça va? Bienvenue dans Génération After, spécial drôle de dame. Tous les lundis, 20h-22h, le foot, la musique, la culture, des quatre grands championnats et la langue française aussi. La France accueille ses nouveaux ministres aujourd'hui, journée de passation. Lui aurait pu être ministre des transports, tellement il passe sa vie dedans. Le taxi pour Manchester, le train pour Paris, l'avion pour l'île de Ré ou Mykonos. Salut Julien Laurence.
Salut Thibaut, salut à tous. J'ai failli rater mon train hier matin pour aller, pour aller à Manchester, je te jure, hein, le 8h20 de London Houston. Le gars voulait pas le laisser passer. Il y a un collègue à lui qui est arrivé qui a dit: je vous connais, je vous écoute à la radio.
Oh là là.
Allez-y. J'ai dit: ah, c'est bon, Ricky, il écoute pas RMC, il écoute la radio anglaise, mais même sur RMC. Merci Ricky.
Quelle star, c'est fort.
Incroyable.
Lui aurait pu être ministre du tourisme, tellement il s'est appliqué pour me concocter un petit voyage dans les Pouilles le mois prochain. Salut Yoann Crochet.
Effectivement, et d'ailleurs tu as très bon goût et ça c'est très bien. Salut Thibaut, bonjour à toutes et à tous.
Ouais, je vous dirai en rentrant si t'as bien bossé ou pas. Lui aurait pu être ministre de la Santé, tellement ce mot il le prononce souvent, un verre à la main quand il trinque. Salut Fred Hermel.
Ah oui.
On va ralentir un peu d'ailleurs. Hein.
Ah, regarde. J'ai de l'eau, je dis pas la marque. Là,
oui,
une petite bouteille là.
Comme dirait Julien Cazard, c'est juste un projectile. Tu vas rien faire d'autre. Et enfin, lui aurait pu être notre premier ministre, notre Michel Barnier, parce que c'est le plus vieux, quoi. Salut Paulo Breitner.
Bonsoir mon cher Thibaut, bonsoir tout le monde.
Bon, désolé Paulo. Ça va? Pleine forme?
Bah, Barnier, ouais, moyen quand même.
Ouais,
quand
ouais, ouais, non. L'âge bof, les idées oui, mais l'âge. Ouais. Les ouais, gars.
Ministre de l'économie, j'aurais bien voulu.
Ah ouais? Mais ça aurait fini comment du coup?
Ah ben en grève nationale évidemment.
Allez les gars, votre programme de ce Génération After drôle de dame en 15 secondes, Julien.
On va commencer bien sûr par le gros match d'hier, ce Manchester City Arsenal qui a été assez incroyable du début à la fin. On reviendra aussi sur des équipes qui ne gagnent pas en première ligue. Il y en a beaucoup cette saison, ça m'inquiète un petit peu, et puis on aura une minute assez particulière qui nous rappellera à tous quelques souvenirs.
Johan.
On va revenir sur le derby de Milan, évidemment, le gros match de cette cinquième journée en Italie, avec un peu d'air, enfin un bon bol d'air frais pour Paulo Fonseca, avec un match vraiment maîtrisé. On va revenir sur un autre chantier compliqué à Rome, la Roma, avec une semaine catastrophique à tous les niveaux. D'ailleurs, la Roma a un frérot maintenant, le frérot Julien Laurence, le frérot Everton.
Depuis ah oui, c'est
ce
vrai,
soir,
c'est
parce que les Friedkin, propriétaires de la Roma, ont aussi racheté Everton. Et puis on évoquera malheureusement la disparition du héros du Mondial 90 en Italie.
Fredo, au programme du soir.
Bien entendu, on va parler de la grave blessure de Marc-André Ter Stegen, rupture du tendon rotulien. Il a été opéré cet après-midi, la saison est terminée. Donc il faut chercher un nouveau gardien. Donc je vais demander aux copains de me proposer et de proposer au Barça de possibles remplaçants pour Ter Stegen. On parlera aussi du nouveau trio d'attaque du Real Madrid. Ils ont marqué chacun et ça commence à bien jouer. Et puis dans la minute, on parlera d'un joueur andalou.
Polo, ton programme.
Bon, on a eu un superbe match hier entre Stuttgart et Dortmund. 5-1, et je suis super content pour Stuttgart. Donc évidemment, on va parler de cette rencontre. Mais le plus important, c'est que les médias allemands, alors qu'on a une superbe journée, ont déjà switché sur ce qui va se passer le week-end prochain, le duel entre le Bayern et Leverkusen. Le temps des géants, comme le dit Kicker. Et voilà, donc c'est un peu le deuxième gros débat qu'on va avoir ce soir. Et puis on aura une minute un peu spéciale.
On est en direct avec les drôles de dames jusqu'à 22h et sur tous ces sujets, vous nous appelez au 32-16, rendez-vous à 21h45, les drôles de dames face à vous. Et je rappelle qu'on est toujours en direct sur YouTube, la chaîne de l'After, @after-foot. Vous pouvez venir nous voir et commenter votre soirée. Vous verrez par exemple Nico Jamin qui est déjà là, qui sera aux commandes du 22 minuit. Salut Nico.
Salut Thibaut, salut les drôles de dames.
Alors,
On nous fait les infidélités.
Salut le traître.
C'est une famille l'after de 20h à minuit, qu'est-ce que tu racontes?
Faut choisir son heure, c'est tout.
Ben c'est ça, écoute.
On ne sait pas comment on va te recevoir la semaine prochaine.
J'adore rentrer chez moi tard le soir après minuit.
C'est ça.
Je passe une soirée tranquille.
Alors si ça, on peut s'arranger hein, si tu veux rentrer tard chez toi.
Au programme de l'after à 22h, Thibaut, on va revenir sur le gros coup de gueule de Mehdi Bellassi à la mi-temps de cette OLOM. Est-il allé trop loin, le patron, le conseiller sportif de Pablo Longoria? Débat à venir. Et puis aussi Lyon au programme, bien sûr, giflé hier, humilié par 10 Marseillais. Est-ce la crise à Lyon? Daniel arrivera avec ses infos également. Vestiaire lyonnais. Avis de Daniel aussi sur le Paris Saint-Germain. Attention, Polo, c'est pour toi. Luis Enrique, c'est le football communiste. Tant dire que pour l'esprit Daniel, c'est pas très positif. Ce sera à partir de 23h. Et puis l'avis de Flo Gautreau. Le 3-5-2, c'est le schéma des entraîneurs qui flippent aujourd'hui en Ligue 1. Présumé au départ offensif, c'est devenu maintenant un repli défensif pour certains. Ah oui.
Ce qui n'est pas faux.
T'intéresse. Ouais. C'est pour l'after à partir de 22h.
A tout à l'heure, Nico.
À tout à l'heure, les gars.
Avec Daniel Riolo et Flo Gautreau. Il est 20h07, vous êtes sur RMC Génération After spécial Drôle de Dame, comme tous les lundis, 20h, 22h, et commençons par le choc du week-end que l'on attendait tous et qui a tenu ses promesses, enfin, au moins sur le résultat final, le nombre de buts. Ce Manchester City-Arsenal, sur le nombre de buts et sur le scénario aussi, Julien, avec cette égalisation au bout du temps additionnel.
Ouais, assez incroyable. J'ai trouvé, moi, du début à la fin, sincèrement, c'est un match qu'on attendait beaucoup, même si c'est assez tôt dans la saison, finalement, entre les deux, là, cette nouvelle rivalité, on va dire, entre premier et second des deux dernières saisons, des deux derniers championnats, qu'on attend encore jusqu'au bout, un mano à mano, peut-être un petit peu avec Liverpool, mais en tout cas, voilà, ça devrait être encore entre eux que va jouer ce titre de Premier League. Donc, on attendait beaucoup de ce match de Guardiola contre Arteta, bien sûr, de Haaland contre Saliba, tous les match-ups qu'on pouvait trouver à droite, à gauche, partout, dans un Etihad rempli, sous la pluie, bien sûr, parce qu'hier, il a pas arrêté de pleuvoir à Manchester. Et on n'a pas été déçus. Sincèrement, il s'est passé quelque chose à tous les niveaux, du début à la fin. On a eu ce but très tôt, d'ailleurs. Déjà, avant le début du match, on a eu la nouvelle que Calafiori débutait pour la première fois pour Arsenal. Bon, Johan, j'ai pensé à toi, arrière-gauche. Ça veut dire Ben White sur le banc. Ça veut dire aussi Timber à droite. Donc, Arsenal changeait 50% de sa défense. Même s'il y avait qu'un joueur qui arrivait, tu changeais Timber de gauche à droite, tu mettais Calafiori. Donc, voilà. Et puis, au bout de quelques minutes, simplement, il y a ce but de Haaland, le centième. Pour lui à Manchester City, 100 buts en 105 matchs. Donc là, j'ai pensé à toi, Polo, en me disant, quoi. Donc après, Johan, c'était Polo. Tout
monde, j'espère que t'as pensé 100... à Polo, sinon il va être jaloux. Hein.
Bah, tu verras. Il okay. Faut que t'attendes la fin du.
J'attends très souvent à moi.
Je pense très souvent à toi, mon Fredo. Et donc je me dis, voilà, Haaland, 100 buts en 105 matchs. Alfie était là, bien sûr. On a les Scandinaves, ils avaient ramené tout le monde. Il y avait du Peter Schmeichel, il y avait du Freddy Ljungberg, il y avait du Fjortoff, il y avait Alfie Haaland, il y avait tout le monde qui était là. 100 buts en 105 matchs, toutes compétitions confondues, énorme, vraiment énorme. En plus, il finit bien cette occasion donnée par Savinho. Après, il y a la blessure de Rodri. J'ai pensé à toi, mon Fredo, parce que tout de suite, on a vu que c'était grave. Et il se met pas à pleurer tout seul, Rodri, si c'est pas grave. Hein. Guardiola l'avait dit après le match. Il avait dit, j'ai pas de nouvelles, mais je peux vous dire que s'il a demandé à sortir, c'est que ça doit être assez grave quand même. Et on a eu la confirmation aujourd'hui qu'effectivement, c'est très grave. Malheureusement, un autre genou qui part en vrille comme ça, c'est très, très triste, vraiment. Et puis après, on a eu le but de Calafiori extraordinaire, lui qui avait fait une erreur sur le premier but. On a vu Gabriel encore marquer de la tête. On a vu une équipe d'Arsenal bien meilleure à 11 contre 11 contre City à l'Etihad. Et puis ce carton rouge de Trossard qui fait faute déjà sur Bernardo, qui dégage le ballon. Est-ce qu'il dégage vraiment? Est-ce qu'il n'entend pas le coup de sifflet? Est-ce que tu as vraiment besoin de donner un deuxième jaune comme ça? Je sais pas vraiment si c'est la règle, c'est la loi, mais est-ce que parfois tu dois pas utiliser un petit peu de... Je sais pas moi, de ton jugement à toi en tant qu'arbitre. Voilà, donc on a eu une seconde période à 11 contre 10 qui était une attaque-défense, véritablement, où j'étais un petit peu déçu quand même par Manchester City dans son incapacité à se créer des vraies occasions. À 11 contre 10, ils ont eu 93% de possession à un moment dans la seconde période, c'est incroyable. Ouais. Et au final, ils ont attendu la 98e minute pour marquer sur un petit coup de billard qui fait qu'un 2-2, il est beau finalement. Moi, je trouve qu'il est beau parce qu'il est frustrant pour tout le monde. T'es frustré si t'es Arsenal parce que t'étais si près d'une première victoire en 10 ans quasiment. Ça faisait 2 ans que City n'avait pas perdu à domicile, toutes compétitions confondues, et ils ont toujours pas perdu. Et si c'était City, t'es un peu frustré parce qu'à 11 contre 10 pendant 45 minutes, tu peux pas vraiment te satisfaire d'un match nul de partout.
Ouais, et puis il y a cette deuxième période, moi c'est celle-ci qui m'a déçu, mais est-ce que tu penses qu'en fait c'est le carton rouge qui donne ce scénario pour ce match, cette attaque défense, ce 90-10 de possession? Tu penses qu'Arsenal aurait pu mieux faire? Parce que voilà, la deuxième période c'était un,
je sais pas, sincèrement,
c'était un bus quoi, c'était vraiment...
Ouais, alors moi je sais pas la télé comment ça a donné, mais j'ai dit à la radio anglaise après le match, j'ai dit peut-être qu'à la télé c'était... Vous êtes embêté quoi. Je sais pas comment ça, un tel attaque défense entre deux équipes si fortes, ouais, avec des joueurs si forts, je sais pas ce que ça donne à la télé. Ouais, ça, mais nous dans le stade c'était incroyable. Je te jure, c'était tout le monde était, tu sentais qu'il y avait, c'était nerveux, il y avait de la tension partout sur le terrain, sur les bancs de touche, dans les tribunes, partout quoi. C'était même côté Arsenal alors qu'ils menaient 2-1 et que voilà, mais c'était de la, sincèrement c'était vraiment de la folie. Vincent Duluc était là pour l'équipe, il y avait Samir Nasri, Kolo Touré, Robert Pires qui était là aussi pour les anciens joueurs que les auditeurs connaissent. Mais voilà, à la fin, tout le monde disait waouh, c'était, mais voilà, qu'est-ce qu'on a vécu. Mais je sais qu'à la télé, ça devait être différent. Je sais pas si Arsenal peut jouer différemment. Si, bien sûr, tu peux tenter de jouer différemment, mais je pense que tu prends une volée. Je pense que si tu te mets à jouer à 10 contre 11 contre cette équipe-là à l'Etihad, tu prends une volée. Après, c'était fascinant la conférence de presse de Guardiola d'après-match où il dit sincèrement, je savais pas quoi faire. C'est la première fois de ma vie que j'entends Pep Guardiola dire j'ai douté. J'ai douté de moi-même, de mes choix, je savais pas quoi faire, est-ce que je devais bouger un Ruben Dias, un Kyle Walker, qui je devais faire entrer en jeu, comment on devait jouer. Parce que je pense que même si à l'entraînement tu travailles toutes ces situations-là, hein, tu fais des 4 contre 5, des 6 contre 5, des 7 contre 8 pour trouver toujours le joueur qui est le extra man, comme disent les Anglais, celui qui est toujours libre puisque tu as un joueur de plus forcément sur le terrain. Et pourtant là, c'était, ils ont eu beaucoup beaucoup de mal, c'était assez lent dans leur transmission, il se passait pas grand-chose finalement. On a eu deux frappes de Gvardiol un petit peu lointaines, la deuxième un bel arrêt de Raya, mais sinon il se passait rien quoi. Haaland a quasiment pas touché le ballon, Gundogan non plus, Foden a rien apporté. Donc voilà, c'était assez fascinant. Et je pense que même Arteta de son côté a hésité longtemps par exemple à faire un changement, alors que tu vois bien que Martinelli il en pouvait plus, le pauvre, que Havertz il était cuit complètement. Mais est-ce que tu peux changer un joueur quand ton équipe finalement elle défend si bien à 10 contre 11? Je sais pas, j'ai trouvé ça incroyable.
Ouais, alors justement tu parlais de Guardiola, il y a une image qui a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux, notamment en Espagne bien entendu, c'est la colère de Guardiola qui donne un grand coup de pied dans un siège. Est-ce que ça après est-ce qu'on en parle beaucoup en Angleterre?
Parce beaucoup, beaucoup, ouais. Alors on parle pas du fait qu'il ait réagi comme ça avec son coup de pied, c'est juste que ça vient donc sur le but qui est un petit peu lui-même polémique, le premier but d'Arsenal, celui de Calafiori, puisqu'il y a faute au milieu du terrain pour Arsenal. L'arbitre appelle les deux capitaines, donc Saka qui vient de son aile droite jusqu'au rond central on va dire, et Kyle Walker qui vient de son poste d'arrière droit jusqu'au rond central aussi. L'arbitre Michael Oliver leur parle à tous les deux, t'avais vraiment l'impression c'est on va se calmer un petit peu parce qu'il y avait pas mal de fautes, tu sentais encore une fois la tension. Sauf que une fois qu'il dit aux deux capitaines, c'est bon, reprenez vos positions. Kyle Walker, est, à mon avis, à son déshonneur, je sais pas comment on dit, mais l'erreur que fait Kyle Walker, c'est qu'un, il tourne le dos au ballon. Donc, au lieu de se replacer à reculons en regardant le ballon et le jeu face au jeu, comme on te dit toujours, il tourne le dos au ballon et au jeu et il se replace en trottinant au lieu d'accélérer. Donc, il n'est pas vraiment en place. Peut-être qu'il attend que l'arbitre siffle le coup franc pour que Partey puisse jouer, sauf que l'arbitre a pas besoin de siffler, il dit jouer maintenant. Partey joue vite sur le côté de Kyle Walker qui est pas en place. Martinelli remet le ballon en arrière, Calafiori met un but de fou, voilà.
Et donc Guardiola s'est énervé. C'est contre son joueur.
C'est contre son joueur. Et ouais, tu sais ça, pourquoi Fredo? Parce qu'il nous a raconté après le match avoir dit à ses joueurs avant le match, il leur avait dit attention. Tout ce que Arsenal peut jouer rapidement, ils vont le faire. Ouais, les corners, les coups francs, les touches. Mmh. C'est l'équipe qui joue le plus vite maximale en première ligue. Mmh. Exactement. Et qu'est-ce qu'il fait? Il tourne le dos au jeu et il se replace en trottinant. Ah, oui.
Et on a vu donc cette tension avec, notamment à la fin du match, Haaland qui s'est un peu chauffé avec Arteta, qui lui a dit un peu honte. Même sur l'égalisation, on le voit jeter un ballon sur la tête de je ne sais plus quel défenseur.
Gabriel, ça,
c'est
marrant.
Rapidement, pour conclure sur cette affiche, Rodri, c'est grave, très grave. Saison finie, on a un peu de nouvelles ce soir.
Ouais, c'est la saison, ouais. Ouais, c'est la saison. Ouais. C'est la saison. Ouais, c'est le genou. Donc, mais on
c'est
a
le ligament croisé,
tout de suite,
ça,
sincèrement. Ouais, c'est le ligament croisé. De toute façon, il tombe tout seul sur une course complètement anodine. Voilà, c'est un autre encore qui malheureusement est peut-être victime du calendrier et tout ça.
City leader avec 13 points, Arsenal 4e avec 11 points. La course au titre ne fait que débuter en Angleterre. 20h15, petite pause et on est de retour avec les drôles de dames direction l'Italie avec la folle semaine de la Roma que va nous raconter Johan Crochet, d'ailleurs qui n'est toujours pas terminé cette folle semaine depuis le départ de De Rossi. La Roma qui a d'ailleurs gagné un match dans l'intervalle, mine de rien. Johan Crochet, Paulo Breitner, Fred Hermel et Julien Laurence, les drôles de dames avec vous jusqu'à 22h.
RMC, 20h-22h, Génération After.
Thibaut Giangrande.
C'est lundi, c'est drôle de dame. Merci d'être là, Fred Hermel, Julien Laurence, Paulo Breitner et Yoann Crochet avec vous jusqu'à 22h en direct sur YouTube, la chaîne de l'After. Vous pouvez commenter. Abdelito écrit l'arbitrage est catastrophique en PL. Vitozzi, Gundogan va remplacer Rodri, donc ça va aller. N'hésitez pas, continuez à.
Pas le même joueur, hein, pas le même profil.
Pas le même profil.
Bon courage à lui, ouais.
Et puis surtout, vous nous appelez au 32-16 si vous voulez venir en direct débattre, poser une question au drôle de dame. 21h45, vous le savez, c'est votre quart d'heure. À suivre le Barça, la blessure de Ter Stegen, l'Allemagne avec Dortmund qui a explosé contre Stuttgart. Mais d'abord, Yoann Crochet, l'Italie. Cette semaine assez incroyable qui a commencé avec le limogeage de De Rossi, une sorte de tsunami qui a eu encore des répliques ce week-end.
Ouais, c'est une semaine vraiment absurde. Vraiment, le mot qui revient, c'est absurde parce que il y a déjà l'absurdité du choix de se séparer de De Rossi après 4 journées. Alors, toute la com du club est organisée autour de ce n'est qu'une décision sportive sur les résultats. Alors, les Friedkin ont fait encore un communiqué ce soir en expliquant plein de choses à travers le rachat d'Everton. Vous inquiétez pas, on va continuer à investir. La Roma, ça compte beaucoup, évidemment. Hein. Et en disant, c'est pas une décision populaire, on s'en rend compte, évidemment, on le savait, de sortir De Rossi du club. On sait que c'est difficile, mais là où c'est très bizarre dans la communication, c'est qu'il t'explique que c'est pour avoir l'ambition de gagner des trophées cette saison. Sauf qu'ils avaient commencé le cycle avec De Rossi en disant, on est sur un cycle de 3 ans, un projet de 3 ans, et là, d'un seul coup, ça se transforme en, il faut gagner en fin de saison. Donc, c'est pas hyper cohérent. L'absurdité, c'est aussi de se dire, on sort De Rossi parce qu'il y a un conflit interne aussi avec celle qui était jusqu'à quelques heures après l'administratrice déléguée, la CEO de la Roma, Lina Souloukou, la dirigeante grecque. Et on savait qu'entre les deux, ça passait plus très bien. Le choix était fait d'écarter De Rossi, sauf que, décision extrêmement impopulaire, vous le mettez dans un facteur tourbillonnant comme peut être la Roma, où il y a une passion débordante qui se transforme assez facilement dans le bien et dans le mal, dans l'excès ou dans l'excès positif ou dans l'excès négatif, en une déraison totale. Vous avez une dirigeante grecque qui a été pointée du doigt pour le départ de De Rossi, qui ensuite a été chose inadmissible, menacée. Les banderoles étaient contre elle, donc on lui a adjoint des services de sécurité pour elle, pour sa famille. Et c'est pas une situation qui est ni acceptable ni facile à vivre. Et elle a décidé, pour des raisons familiales, d'ensuite démissionner, même pas 48 heures après le départ de De Rossi. Donc on a un club qui a perdu son entraîneur, son administratrice déléguée en 48 heures. Un club qui a quasiment balayé d'un revers de la main son projet de 3 ans, parce que c'était fondé sur Lina Souloukou et sur Daniele De Rossi, avec un investissement de 100 millions d'euros, un peu plus de 100 millions d'euros lors du mercato estival. Et entre ça, on a eu une contestation des supporters très forte, je le disais. Alors la partie déraisonnée, c'est tout ce qui est menace. Et ensuite, il y a la partie plus amour envers Daniele De Rossi, avec des banderoles en son honneur, avec des gens qui allaient jusqu'en bas de son appartement, pas loin du Castel Sant'Angelo à Rome, pour lui témoigner leur soutien, avec chants, fumigènes, banderoles, etc. Il y a même la femme de De Rossi qui a mis un message sur Instagram en disant merci avec une photo depuis la fenêtre de l'appartement. De Rossi s'était montré à la fenêtre. Donc,
ouais, c'est le pape, quoi.
Le François le plus important à Rome, c'est un ancien joueur, c'est pas le pape. C'est Francesco Totti.
Oui, François
c'est
Totti.
Pas papa magnifique.
Et je vais te dire, le chrétien que je sais, que je suis, le comprend parfaitement.
Exactement. Mais c'est vrai que c'est un. Derrière Totti, la personne la plus aimée et à Rome, c'est De Rossi, évidemment. C'est une figure importante, c'est quelqu'un qui représentait les supporters et ça a été très très mal vécu. Donc vous avez un entraîneur qui arrive derrière, c'est Ivan Juric, qui arrive dans une situation quand même, dans un chaudron, quoi. Vraiment, pour lui, c'est très difficile d'arriver dans cette ambiance-là, où les joueurs ils sont insultés quand ils arrivent au centre d'entraînement après l'annonce du départ de De Rossi.
D'ailleurs, il y a une petite com maline, je crois que c'est aujourd'hui ou hier après le match, en disant, Juric, que les joueurs lui avaient dit qu'ils regrettaient le départ de De Rossi.
Non, mais ça, moi, je peux le croire, parce qu'il y a des...
Oui, mais il fait bien de le dire, quand même.
Ouais, mais c'est vrai que c'est très intelligent. Et il y a des joueurs de l'effectif actuel qui avaient été compagnons, coéquipiers de Daniele De Rossi, coéquipier, lorsqu'il était joueur déjà à l'époque à la Roma. Donc, ils ont été affectés. Ivan Juric, après le match, a dit Bah oui, oui. Les joueurs ont eu l'honnêteté de me dire qu'ils étaient marqués par le départ de De Rossi. Donc les premières heures n'ont pas forcément été géniales, mais après, c'était des professionnels. Ils ont très bien bossé, très à l'écoute. Et ce qui est bien, c'est que Ivan Juric a été intelligent aussi là-dessus. Il a beaucoup parlé de l'héritage de De Rossi, qui s'entraînait déjà très bien, qui avait des choses en place qui étaient déjà intéressantes sous De Rossi, qu'il n'allait pas tout bouleverser et tout changer. Et arrivé donc ce match où dans une semaine complètement folle, stade à moitié vide, enfin à moitié vide, la cour Vassoud, donc le grand virage de supporters avait décidé de rester en dehors du stade pour les 30 premières minutes. Ils sont arrivés au bout d'une trentaine de minutes. Il y a eu des contestations, des banderoles contre les propriétaires, essentiellement contre les propriétaires, des banderoles d'amour pour De Rossi aussi. Et dans le match a été plutôt bien maîtrisé, je trouve, dans cette ambiance de fin du monde vraiment. À Rome, je trouve que Juric a fait du bon boulot. Je trouve que les joueurs ont aussi fait du bon boulot.
Ils ont mis 3-0 à l'Udinese, qui était leader journée. L'AS Rome n'avait pas gagné encore. Donc oui, c'est vrai que finalement.
Non, et puis au-delà même du résultat, c'est le contenu. Contenu est quand même plutôt bon, je trouve. Il y a eu des choses intéressantes. L'Udinese n'a pas trop existé. Alors c'est en partie parce que la Roma était bonne, mais je pense que l'Udinese a aussi un peu manqué d'ambition dans ce match-là. Parce que quand vous êtes adversaire d'un club qui est en telle perdition, ça peut être vraiment idéal pour toi d'arriver et de te dire. Les gars, ils sont à l'ouest total. C'est la crise chez eux. Ils n'ont pas leurs supporters pendant la frange la plus chaleureuse pendant une bonne partie du match. Les gars, allons-y, on leur rentre dedans. Moi, j'étais très honnête du début de match. Je pensais que l'Udinese, ils allaient arriver et leur mettre des brins, leur rentrer dedans pour leur montrer que ça allait être compliqué, leur mettre la tête sous l'eau. Et ça n'a pas été du tout le cas.
Et dans cette réorganisation en cours, qu'en est-il de Gisolfi arrivé cet été
Bon, c'est pas simple parce que. Alors, on parle d'une situation qui ne se répétera plus puisque Lina Soulukou est partie, mais elle avait une grande volonté de contrôle sur tout, y compris même sur le mercato, hein, sur les deals en place. Elle a fait l'essentiel des négociations. D'ailleurs, vous pouvez demander au Stade Rennais. Je suis pas sûr que ce soit toujours très bien passé au niveau des négociations quand Enzo Lefebvre est arrivé à la Roma avec Lina Soulukou. Mais
les Lensois aussi avec Danso aussi peut-être.
Visiblement.
S'il y avait.
Je sais pas si.
Bah, il va être opéré.
Oui, je sais pas si Polo confirme ça, mais en Autriche, on parlait hier quand même d'une petite opération au cœur de Danso, donc c'est pas.
Non, mais c'est confirmé. Hein.
Visiblement, c'est pas non plus juste.
C'est réel.
Une arnaque comme Lens a essayé de le présenter, quoi.
Et puis, sans sauver la Roma, Danso, il est bien connu en Allemagne quand même. Il a voulu forcer à l'époque son transfert à Augsbourg. On a bien vu ce qu'il a fait aussi l'année dernière à Lens lorsqu'il décidait de ne pas jouer un match, etc.
Un match décisif, le dernier match de la saison.
Ouais, Danso, c'est pas non plus le lapin de trois semaines, quoi. C'est un mec, il a quand même fait des choses qui sont, on va dire, limite si on cherche un affect chez un joueur. Quoi.
Ouais. Et donc, pour revenir à Gisolfi, ce moment compliqué, moi, on m'a dit, source du club, hein, on m'a quand même dit un truc très fort et très puissant, on m'a dit, il décide de rien, donc. Alors moi, je pense pas que ça
peut-être changer maintenant, justement.
Je pense pas que ce soit à ce point-là. Déjà, je pense que c'est un peu exagéré. Ouais. Néanmoins, parce que le fait, c'est lui qui l'a voulu et c'est lui quand même qui a été à l'initiative. En tout cas, il est très critiqué par l'environnement autour du club parce qu'il ne parle pas, il parle à personne, mais pour des trucs insignifiants ou pour ça peut être avec des agents, avec des journalistes sur place, même des trucs vraiment bénins où ça nécessiterait une réponse. Et le fait de ne pas s'intégrer comme ça, ça peut aussi totalement jouer contre lui.
C'est en train de se passer un peu. Avec ce nom-là.
Il ne parle pas italien. Il a des notions. Ouais. Non, mais c'est pas ça.
Il faut se méfier des noms qui sonnent italiens, des gens qui parleraient.
Giangrande.
Giangrande, il est comment?
À part Aventi, la camionnetta et deux, trois insultes. Non,
tu vois, on est vraiment déçus. Hein.
Mais c'est même pas une question de langue, parce que tu as des directeurs sportifs. Thiago Pinto, quand il arrive à la Roma, il est portugais, il ne parle pas spécialement italien, mais il est ouvert. Il est présenté en tant que directeur sportif. Ouais. Il fait une conférence de presse à la fin du mercato pour expliquer ce qui s'est passé, pourquoi ils ont fait ça, pourquoi ils ont pris tel joueur, comment ça s'est passé. Lui, il n'a pas été présenté. C'est jamais arrivé à la Roma qu'un directeur sportif soit pas présenté.
Parce qu'il n'a pas voulu, peut-être.
Mais c'est en soi, c'est pas génial, quoi. Même au niveau de la com du club, on commence à lui dire bon, faudrait peut-être lui dire non, envoyer ça avec Lina Soulukou.
Et surtout que maintenant, il est tout seul, là.
Bah là, pour l'instant, il y a quand même un dirigeant d'envergure à aller chercher. Mais la Gazzetta, ce matin, disait on n'est pas sûr qu'il reste. je m'avancerai pas autant, mais pour l'instant, c'est pas génial. Ouais.
À voir si le tsunami est définitivement passé à Rome ou pas. On continue de suivre ça avec toi. Et merci, Yoann, de nous raconter l'Italie hein, tous les lundis, d'autant plus ce championnat qu'on ne peut plus voir en France. Ça fait plaisir. Et tiens, d'ailleurs, l'Udinese Thauvin, qui a priori n'a pas brillé dans ce match-là, préconvoqué par Didier Deschamps, d'après l'équipe, pour le prochain rassemblement de l'équipe de France.
Pour ceux qui n'ont pas encore écouté, je sais que tu es très podcast, même si tu n'as plus l'After Lyon, mon cher Thibaut.
Il remue le couteau dans la plaie.
mais podcast After Italie sur Florian Thauvin, justement avec Rudy Garcia. On avait évoqué un potentiel retour en équipe de France. Alors pour l'instant, c'est juste une pré-convocation, on ne va pas s'emballer. Mais on a discuté de ça avec Rudy Garcia.
Et bon, d'ailleurs, puisqu'on balance les podcasts, mais justement, podcast Espagne. Ouais. Fernand Mendy aujourd'hui.
Il est tout frais d'aujourd'hui.
Ah, tout frais, il sort du four.
Ah, vous le savez, vous qui nous écoutez, c'est la nouveauté si vous aimez ce rendez-vous
after
des drôles de dames.
After Angleterre.
Exactement. Aussi. Toutes les semaines, les podcasts de vos drôles de dames, une fois par semaine. Johan, Polo, Julien et Fredo.
C'est vrai que pour leur podcast, mais c'est l'occasion de parler.
Et de parler plus en profondeur
de gens qu'on évoque tôt, parce que Mendy, c'est pas la star du Real. Et aujourd'hui, je vous ai dit, vous allez apprendre des choses sur Fernand Mendy.
Exactement. Dans un
c'est
instant,
bien vendu, là, ça y est.
L'Allemagne, justement, attendez minuit pour vous les faire, justement. C'est après l'after.
Ah, bah oui.
Dortmund qui a explosé hier à Stuttgart et la minute de Fred Hermel. C'est le programme de Génération After dans un instant sur RMC.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Thibaut Giangrande.
Les drôles de dames sont là jusqu'à 22h comme tous les lundis soirs. Julien Laurence, Polo Breitner, Fred Hermel, Yoann Crochet, 32-16. Si vous voulez les interpeller, leur poser une question, 21h45, elles seront ces drôles de dames face à vous pendant un quart d'heure. Comme tous les lundis, on est toujours en direct sur YouTube, bien évidemment. J'ai vu que vous nous demandiez pour les podcasts, là, la nouveauté de la saison, les podcasts des drôles de dames. C'est dispo partout. Hein. Là, par exemple, je suis sur l'appli RMC, RMC Sport, podcast After Angleterre, After Espagne, Italie.
Sur rmc.fr,
Spotify,
Deezer, Apple
c'est parti. Ouais. D'ailleurs, à côté de ce podcast Angleterre, j'ai les livres. C'est quoi ce nouveau podcast aussi là ? Qui c'est qui présente ça ? Un show avec des lunettes ?
Ah, je sais pas, je connais pas.
Fred Hermel.
Fred Hermel, Délivré RMC, ça s'appelle.
Délivré RMC,
c'est ça. Ouais, c'est un podcast littéraire. Et c'est parti, il y a le premier épisode des gens.
C'est nouveau,
et on enregistre le prochain épisode vendredi. Mais allez-y, c'est très sympa.
À suivre.
Enfin, à ce qu'on dit. Hein.
Justement, la minute de Fred Hermel. On parlera également de la blessure de Ter Stegen. Est-ce que ça peut plomber le Barça cette saison ? Mais d'abord, Polo, l'Allemagne. Et j'allais dire cette surprise. Est-ce que toi, t'es surpris de cette déroute de Dortmund face à Stuttgart ? 5-1.
Alors, je peux me tromper évidemment sur mes analyses, mais je rappelle que sur le Borussia Dortmund, qui était invaincu depuis le début de la saison, je n'ai pas arrêté de dire qu'il y a un décalage depuis que Nouri Sahin, a été nommé entre les résultats et les points qu'il marque et la prestation sur le terrain. Et Nouri Sahin, il se fait, mon cher Thibaut, que je suis en ce moment au Borussia Dortmund et j'étais cet après-midi avec Nouri Sahin. Donc, si, j'étais avec en interview. Je peux t'assurer que je pense qu'il avait autre chose à faire dans sa tête, que le 5-1 que s'est pris Dortmund hier à Stuttgart a fait très très mal. Et surtout, ce qui m'impressionne, c'est la façon dont Nouri Sahin est sorti un peu de ses gonds en conférence de presse. Je résume la phrase. On peut trouver à chaque fois des millions d'excuses, mais il n'y en a pas une seule qui est valable pour la prestation qu'on a faite hier à Stuttgart. C'est assez impressionnant parce qu'il a remis non pas la même composition mais le même schéma de jeu en mettant Julian Brandt en meneur de jeu et Sabitzer à droite, en milieu droit. Sabitzer n'arrête pas de se plaindre depuis le début de la saison que ça ne fonctionne pas. Mais au-delà de la position des personnes, c'est surtout l'état d'esprit de l'équipe qui a manqué complètement. Ça râle beaucoup du côté du Borussia et je peux t'assurer pour avoir passé ma journée au Borussia aujourd'hui qu'ils font tous la gueule et ils sont en train de prendre du Guronzan là. On a même eu du retard au niveau des
Temps qu'on devait
faire.
Ouais, parce que on te perd un petit peu. Je sais pas si c'est politique ou quoi.
Non,
si
c'est vraiment,
j'ai l'impression que ça dérange ce que tu es en train de dire. On va te reconnecter, Polo. Mais c'est vrai que il y a 5-1. J'ai vu passer des messages aussi sur le chat. Là, on me dit Enzo Mio brillant avec Stuttgart. C'est vrai que c'est un joueur qu'on connaît peu en France, qui a été très bon, hier. Je sais pas si vous avez suivi.
Déjà la saison passée, il a été très 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 bon à Stuttgart. Et là, il gagne en volume, il gagne en décision, il gagne en maturité aussi sans doute, un peu en expérience. Et je serais pas étonné de le voir, hein, mon cher Julien, dans pas longtemps, à un niveau au-dessus de Schneider.
On a retrouvé Polo. Polo, on t'a perdu sur la conclusion du Borussia.
Je vais venir, parce qu'après, il faudra parler de Stuttgart, évidemment, et d'Enzo Mio, qui a été exceptionnel. Le Nuri Sahin est arrivé en interview à peu près avec 2h30 de retard, et il se dit que l'entraînement a été allongé cet après-midi, avec explication de texte au niveau de l'équipe, etc. Maintenant, encore une fois, le Dortmund n'a pas été bon, mais il faut parler de la prestation de Stuttgart. Beaucoup en Ligue des Champions ont vu ce qu'ils étaient capables de faire malgré la défaite contre le Real. Mais il y a un joueur, j'en parlais déjà l'année dernière, on me fatiguait beaucoup avec les statistiques de Guirassy, qui d'ailleurs était en face ce week-end. Mais moi, c'est le Français Enzo Mio, en tant que milieu offensif, quand il est décalqué côté droit. Regardez la passe qu'il fait à Touré pour le but du 4-1. Ça rappelle celui de Benzema à l'époque, lorsqu'il est près de la ligne. Je peux vous assurer que c'est assez. Moi, je suis vraiment très content pour Stuttgart parce que on se posait la question de savoir ce qu'il y avait après les départs de cet été, si ça allait faire une belle équipe. Moi, je suis désolé. Enzo Mio, il est pas loin de l'équipe de France. Faut vraiment lui donner sa chance. Et il y a un autre Français, mais on en parlera plus tard. Mais en tout cas, cette défaite 5-1 à Dortmund fait très très mal. Mais je pense que le VfB Stuttgart a peut-être trouvé son équilibre pour refaire une superbe nouvelle saison.
C'est vrai que ce Stuttgart, Fredo, contre le Real. Je me souviens de la première période, notamment, s'il y avait un poil moins de maladresse, ils peuvent être à 2-0.
Mais il faut un Courtois exceptionnel, exceptionnel pour qu'il n'y ait pas 3-0 à la mi-temps. Sincèrement, enfin, je veux dire, moi j'ai adoré Stuttgart et je pense que ce Stuttgart a fait du, on y viendra tout à l'heure, a fait du bien au Real. Je crois qu'ils se sont rendus compte que si ça jouait pas un peu plus collectif du côté du Real, ils ne gagneraient rien cette saison.
Et on en parlera.
Et donc, je pense qu'ils ont travaillé depuis. Moi, j'ai beaucoup aimé ce Stuttgart. J'ai trouvé que c'était une équipe enthousiaste. Que c'était une équipe qui jouait très collectivement, qui savait ce qu'elle. En fait, les joueurs avaient. Je sais pas si je me trompe, Polo, mais que les joueurs savaient ce qu'ils devaient faire collectivement. Tu vois, que chacun connaissait bien son rôle.
Mais en plus, il y a quasiment que les internationaux, faut pas l'oublier. Oui. Il y a la défense centrale qui est un peu faible à mon avis, mais n'oublions pas que je vous ai aussi parlé souvent de Sébastien Hoeneß, le neveu d'Hoeneß. Moi, c'est quelqu'un j'ai apprécié énormément, qui est d'un calme olympien, sauf que lorsqu'il s'énerve dans le vestiaire, et ça commence à fonctionner. Mais le fait de répéter pour la deuxième saison dans un club qui est connu pour, on va dire, avoir des résultats en montagne russe, ils peuvent être champions comme descendre en seconde division. Je trouve ça exceptionnel de répéter quelques jours après la prestation contre le Real qui a fait mal à la tête comme un Stuttgart, faut le dire, de mettre une volée de cette façon à Dortmund qui n'a pas existé. Avec des joueurs, avec deux attaquants, un attaquant contre le Real, avec Mio qui est extraordinaire, même Furich qui était international allemand est aujourd'hui sur le banc. C'est Leveling, un ancien d'Union Berlin, je peux vous assurer que je ne l'ai jamais vu à ce niveau-là, en tout cas lorsqu'il était à Berlin. Non, mais ça peut être la belle surprise de la saison, y compris en Ligue des Champions. Les barrages, il ne va pas falloir jouer Stuttgart.
C'est clair. Stuttgart qui est ce soir 7e de Bundesliga, 7 points après 4 journées, à 5 points du Bayern et à 2 points du Bayer Leverkusen dont on parlera tout à l'heure. Ce sera l'affiche de ce week-end et énormément de
choses. Je me pose une question d'ailleurs là, avec le nouveau format, est-ce que le Real qui a joué contre Stuttgart pourrait retrouver Stuttgart en barrage? Parce qu'avant on ne pouvait pas, mais est-ce que là c'est très possible?
Bon, je pense que oui. Non
je me suis posé la même question. Si tu finis, je me suis posé la même question, c'est-à-dire si le 9e peut jouer le 24e et que si les résultats sont logiques, et que tu les as rencontrés, ils peuvent s'en trouver. Maintenant, je suppose que l'UEFA doit dire non, c'est pas possible, mais en théorie, c'est possible. Ouais.
Rendez-vous tout à l'heure donc pour ce gros choc entre le Bayern et le Bayer. Polo va tout nous dire, surtout après les prestations du week-end. Mais à 20h40 sur RMC, place à la première minute de la soirée. C'est la minute de Fred Hermel. Si te dijera, amor mío, que te va la madrugada. No sé qué estrellas son estas, que hieren como amenaza. Le plus grand chanteur de flamenco actuel, José Mercé.
Tu pars pas sur un podcast musique, rassure-moi.
Non. Attends, là, c'est du très très haut niveau.
Ah, pardon.
C'est la version flamenca d'une des plus grandes chansons espagnoles qu'on avait déjà mis, je crois qu'il y a deux saisons, de Luis Eduardo Aute, qui s'appelle Al Alba. Et c'est l'histoire d'un condamné à mort sous le franquisme qui passe sa dernière nuit et qui pense à l'aube où il va être exécuté. Et là, c'est la version flamenca de cette chanson magnifique. Flamenca, pourquoi? Parce qu'on va parler d'un sévillan. Jesús Navas. Alors, il a failli partir par la petite porte du Séville FC la saison dernière. Finalement, il s'est un peu rabiboché avec les dirigeants qui lui ont proposé de continuer, chose idiote, jusqu'au 31 décembre. Voilà, c'est même pas saison, quoi, ouais. C'est 31 décembre. Et à partir du 1er janvier, d'avoir un poste de représentation, un poste dans l'administration du club. Et il se trouve que Navas n'a pas joué ce week-end, et le week-end d'avant, il avait marqué. Et les supporters se disent non, mais de toute façon, Navas, on a encore besoin de lui. De toute façon, le Séville est vraiment menacé cette saison. Je pense que ça fait partie des grands qui, cette fois-ci, peuvent descendre comme Valence, peuvent descendre en deuxième division. Et que les supporters se disent il faut que Navas reste, parce qu'on a besoin de lui sur le terrain, ne serait-ce que comme capitaine, pour supporter les difficultés de la saison. Mais non, lui a dit que non, il n'en peut plus. C'est sûr, maintenant, le 31 décembre, il arrête sa carrière. C'est une grande page du foot espagnol qui se tourne.
On sait ce qu'il va faire après, il va rester
dans le club. Ouais. C'est ça, il va être dans le club, avec un rôle, on ne sait pas encore lequel, mais un rôle dans l'administration du club, sûrement de représentation. Lui qui était très timide, ça serait assez rigolo de le voir parler devant les micros. Mais voilà, Jesús Navas, c'est sûr, les supporters n'y feront rien. Arrêtera bien définitivement sa carrière, chose très étonnante, un 31 décembre.
Oui, faire ça 6 jours après Noël, c'est quand même... comme une dingue. La prochaine minute, ce sera celle de Julien Laurence et ce sera juste après.
C'est même 7 jours.
Le 31. Oui,
24 et.
C'est Fredo, Noël, c'est le 25.
Ah oui, t'as raison.
Oh là là. Oh là là, c'est
clair. Non, mais tu sais, parce que j'ai pensé
ça,
à quoi
c'est jingle,
pensé
hein. Ça, tu vas avoir un nouveau jingle.
Ouais, hein. Bon, frère, je suis trompé sur Noël.
Tu vois, t'es encore sur tes trucs parce que toi, voilà, tu commences Noël le 24 à midi et voilà. Mais le vrai jour, c'est le 25.
Bah, le 24.
En fait, Fredo, il arrive le 25, il est déjà cuit, quoi, déjà.
Bah, non, mais nous, franchement, vous faites la fête quand? Le 24 au soir ou le 25 au midi? Les cadeaux chez vous, c'est le 25 au matin ou c'est le 24 au soir?
Ça rame un peu, là, quand même.
24 au soir ou pas 20... chez toi, Nathalie, c'est quoi 24 au soir?
Là, je te laisse ramer un peu. Là.
ramé. On n'avance à rien dans ce canoë. Oui,
voilà, on pouvait se rejoindre quand même sur la mer. Allez, on tous les deux
allez, on va faire un duo. Moi, je pense qu'on a un avenir.
Pas sûr. 20h43, petite pause à suivre la minute de Julien Laurence. Et le Barça, Ter Stegen blessé gravement. Cette blessure peut-elle plomber le Barça? On en parle tout de suite avec Polo. C'est Génération After, spécial drôle de dame jusqu'à 22h.
RMC, 20h-22h, Génération After,
Thibaut Giongrande.
Oui, on est lundi, oui, c'est le début de semaine, mais tous les lundis soirs, les drôles de Dan sont là pour vous aider à faire passer la pilule. Julien Laurence, Paulo Breitner, Fred Hermel, Johan Crochet, 20h-22h, votre rendez-vous.
Petite chanson encore là, non?
Du foot européen, de quoi?
Une petite chanson? Parce que c'était bien notre petite chanson juste avant la pilule.
Ah, tu veux, on va vraiment partir sur un podcast, parce que là, je pense qu'au bout d'un moment, on va peut-être quand même emmerder les gens à leur chanter. Mais moi, me chauffe pas surtout sur du Souchon ou quoi, parce que je vais prendre 3 minutes. J'adore.
J'adore. Comme tous les gens qui ont du goût.
À suivre dans vos drôles de dames du foot avec la Bundesliga et ce choc ce week-end entre le Bayern en mode machine de guerre et le Bayern en mode Bayern Leverkusen finalement. Polo nous en parle dans un instant. La minute de Julien Laurence à suivre. 32-16. Si vous avez des questions à poser aux drôles de dames ou YouTube, la chaîne de l'After, dans le respect, toujours bien évidemment. Mais d'abord, justement, l'Espagne, Fredo, cette grave blessure de Ter Stegen ce week-end. Évidemment, on parle très peu de la pourtant large et nouvelle victoire du Barça. Mais est-ce que cette grave blessure au genou de Ter Stegen peut plomber le Barça? Est-ce que ça va recruter? Qu'on fait
automatiquement, c'est gravissime pour le Barça. Enfin, c'est la même gravité que l'an dernier, quand on est à peu près au même moment de la saison, quand Thibaut Courtois s'est blessé. La Ter Stegen, exactement, c'est la rupture du tendon rotulien. C'est la saison est terminée, c'est 8 ou 9 mois, enfin, c'est énorme. Et comme toujours dans ce genre de blessure, ça se fait sur rien, tu vois. C'est pas un coup. Quand on revoyait les images, on eût espéré voir un coup, en disant voilà, c'est un gros coup, excellent. Non, il est sur un corner, il recule, il retombe mal, et là ça pète, et lui il le sait tout de suite. On voit à sa tête que c'est grave, parce qu'il le sait tout de suite que c'est grave. Le remplaçant, c'est Iñaki Peña. Alors, vous allez me dire, ah ouais, l'an dernier, le Real a recruté Kepa et finalement c'était le gardien remplaçant Lounine qui s'est révélé. Est-ce que Iñaki Peña peut se révéler? Je suis moins optimiste. Parce qu'Iñaki Peña, l'an dernier, il avait remplacé pendant 17 matchs, je crois, Ter Stegen, qui avait des problèmes de dos. Notamment, c'était en fin d'année civile, début d'année nouvelle civile. Et donc, Iñaki Peña avait fait quelques bons matchs, mais on avait senti quand même la différence par rapport à Ter Stegen. Il y avait vraiment un gros fossé entre de niveau entre les deux et dans la capacité à sauver des situations vraiment très très difficiles. Donc le Barça recrute. Et là, les amis, j'ai une question à vous poser tous. On parle de noms. Alors, il faut savoir que le Barça peut prendre dès aujourd'hui un joueur. Le fair play espagnol autorise un joker médical. Un joker médical dont le salaire ne dépasse pas 80% du salaire de Ter Stegen. Voilà, okay. C'est ça aussi, parce que vous savez, la Liga de Tebas, c'est ça, il faut contrôler les finances.
Bon, sur le salaire, ça devrait aller quand même.
Oui, ça devrait aller. Et puis là, ils peuvent prendre tout de suite. Ou alors, il faut attendre le marché, le mercato de janvier, pour prendre un joueur qui est déjà en contrat dans une autre équipe. Il y a des noms qui circulent, mais il y en a surtout un. Et moi, je pense que s'ils font ça, ils font un coup énorme. C'est Keylor Navas, l'ancien gardien du Real, qui a gagné les trois Ligues des Champions sous Zizou, 2016, 2017, 2018, c'est Keylor Navas dans les buts en étant décisif. À Paris, je pense qu'on lui a manqué un peu de respect. Je pense que Keylor Navas avait...
D'accord avec toi.
Il avait beaucoup de choses à donner, encore dans ce club. Et que, alors, il y a quelques jours, il était en négociation avec un club au Brésil, on parlait de Grêmio, etc. Mais il est libre. Si le Barça... Après, je ne sais pas si Keylor Navas a envie, lui qui a porté le maillot du Real, d'aller jouer au Barça. Vu la manière dont il a écarté du Real, je pense sincèrement qu'on le comprendrait. En tout cas, moi, je le comprendrais. Alors, je ne sais pas, vous, les copains, si vous avez déjà position à faire.
Ouais, peut-être sur Navas. Déjà, Julien, toi, t'es le dernier à l'avoir vu jouer en PL. C'est comment son niveau à Navas sur les dernières fois que tu l'as vu?
Ah, ça a été un petit peu compliqué par moment, mais bah, il a 37 ans maintenant. Après, c'est à 37 ans pour faire une pige, ça peut peut-être encore le faire pour un gardien de but, mais je ne sais pas dans quelles conditions il est. On se rappelle de Derrea, par exemple, qui avait longtemps galéré, qui n'avait pas 37 ans, mais qui avait longtemps galéré avant de trouver un autre club. Donc, nous, à Nottingham Forest, ça n'a pas été génial, la fin de saison 2022-2023. Mais je suis d'accord avec Fredo, je pense que de toute façon, moi j'allais te proposer Loris Karius, tu vois. Alors, excuse-moi,
oui,
mais
oui, alors les souvenirs de Real Liverpool.
Voilà, au niveau Kagad, il était pas mal, mais sinon, j'ai rien d'autre à te proposer.
Garde Peña peut-être. Est-ce que Johan et Polo, vous avez une bonne idée pour.
Non, moi j'ai fait la liste des gardiens italiens gratuits, à part Emiliano Viviano, 38 ans, qui est plus haut niveau depuis très longtemps, j'ai rien pour toi, mon Fredo.
Ben non, mais en plus, on aurait pu se poser la question du vieillissement de Ter Stegen, qui aura
33 ans cette année. Ouais, parce que c'est compliqué, hein, Polo. Hein.
Ouais, mais sauf qu'il a un contrat jusqu'à Mathusalem, quoi. Mm-hmm. Donc en fait, tu t'es forcé de prendre un gardien qui, pour une pige,
oui.
Tu peux pas lancer un petit jeune comme ça.
Comme pour Courtois, qui a un long contrat et qui.
Ben c'est ça.
C'est la même situation.
Et tu peux pas te dire, ah ben on va aller chercher un petit espoir du foot, et puis comme il est bon, ben il va nous remplacer Ter Stegen l'année prochaine, par exemple, parce que sinon, tu te retrouves encore avec le salaire de Ter Stegen l'année prochaine. Donc tout ça, c'est un peu plus compliqué, ça ne peut être qu'un gardien d'une certaine expérience et qui est là pour faire une pige, ouais.
Idée que me souffle Jimmy Brown qui produit cette émission, tenace. Ancien du Barça, qui est maintenant plus que troisième gardien à Paris, puisque Safonov est arrivé. Bon, il n'est pas libre, hein, mais si.
Fin de janvier.
Ça, fin de janvier.
Ouais, ouais. Bah oui, c'est une question
que tu récupères. Tu peux
je voyais sur, nos amis sur le chat.
Sergio Rico.
Parler de Sergio Rico et parler de Yacine Bounou, qui est en Arabie Saoudite.
Mais il est sous contrat.
Oui, mais pour janvier.
Ouais. Tu tiens, mais bon.
Franchement, là aussi.
En gros, c'est Navas.
Yacine Bounou, c'est un super gardien.
Ouais. Mais après, comment la cohabitation avec Ter Stegen.
Mais il revient pas avant la saison prochaine.
Ouais. Bah ouais, mais enfin.
Oui. Mais...
ça fait double salaire, quoi.
C'est surtout que Ter Stegen dernièrement, c'est un peu une. Enfin, il arrête plus beaucoup de ballons. Hein,
ce match-là, juste avant, il fait un contre un exceptionnel face à Nicolas Pepe, qui a été très bon d'ailleurs, Nicolas Pepe avec Villarreal. Et qui provoque le corner sur lequel il se blesse. Donc voilà, moi je trouve que c'est une situation très difficile pour le Barça. Un petit mot.
Barça qui a quand même mis 5 ans au passage.
Voilà, c'est un super match.
À Villarreal.
C'est un super match, c'est vachement beau.
Ouais.
Simplement, Villarreal qui est l'une des plus meilleures équipes de la saison, qui se prend 5-1 à domicile, moi ça m'inquiète. ça m'inquiète parce que c'est une belle équipe mais qui n'est pas assez compétitive. Et voir Marcelino, l'ancien entraîneur de l'OM, enfin co-entraîneur de l'OM, dire qu'il était content parce que c'était un super match pour les gars, quand on prend 5 chez toi et que Lewandowski aurait pu mettre le 6e sur pénalty qu'il a manqué. Voilà. Et puis je conseille à tout le monde de regarder, de voir, et je termine là-dessus, je parle beaucoup, je sais.
Non.
La passe décisive extérieure de Lamine Yamal.
À la Charisma.
Intitulé
la Vinicius aussi ce week-end.
Défini par Alfredo Lorenzo, mythique homme des médias en Espagne, très proche du Real, et dit c'est la passe décisive du siècle. La Assistencia del Siglo. C'est extraordinaire.
Toujours dans la mesure, mais
on est en Espagne.
La passe était belle.
Charisma, il aurait fallu lui faire un contrat d'un jour dans sa vie. Un seul
jour. Je te jure. Spécial passe.
Et c'est ça, c'est extraordinaire.
On me dit Anthony Lopez aussi dans le chat, Alex. Mais il n'est pas libre, justement, pour l'instant. Il lui reste un an de contrat.
Il y a Benoît Costil, si tu veux, dans ce cas-là. Mais là, on va trop loin, là, pour le Barça.
Allez, Julien, tiens, t'as la parole, justement, pour ta minute 20h55 sur RMC. C'est la minute de Julien Laurence. Let's go. Bon, ça.
Ben, c'est bien ça.
Vous avez reconnu tous, hein, mais on va laisser un petit peu quand même. La musique, bien sûr. Eh oui, another one by the dust, bien sûr. Queen, vous avez tous reconnu parce que quelqu'un d'autre a mordu aussi. Hein. Il n'y a pas que dans la chanson de Queen où on bite, où on mord, puisque si vous avez. Donc, bite, c'est mordre, bien sûr, en anglais. Another one by the dust, c'est quelqu'un mord la poussière. Donc, c'est pas vraiment c'est pas mordre physiquement, mais bon, c'est la meilleure chanson que j'avais trouvée avec le mot mordre dedans, parce qu'on a vu un truc assez grave, bien sûr. C'est pour ça qu'on faisait tout à l'heure référence un petit peu à Luis Suarez, le mordeur, on dit mordeur, non, le mordant, le, je sais pas, qui a déjà mordu lui, on va dire, parce que dans le match entre Preston et Blackburn, alors personne ne regarde Preston Blackburn, je vous le confirme. Mais on a vu l'attaquant de Preston, donc en championship, en deuxième division anglaise, Mutinos Magic, mordre l'arrière gauche de Blackburn. Mais clairement, hein, tu le vois très bien sur les images vidéo, par derrière, dans le cou, donc en haut du dos, alors qu'il y avait eu une petite échauffourée. Owen Beck, l'arrière gauche de Blackburn, prêté par Liverpool, prenait un carton rouge parce qu'il avait effectivement mis une petite balayette à un joueur de Preston. Donc ça s'est un petit peu chauffé. Et tu vois clairement, mais vraiment clairement, Ose Magic le mord dans le cou et le pauvre Beck va dire à l'arbitre, mais regardez, je vais vous montrer. J'ai la morsure, il m'a mordu, je vais vous montrer. L'arbitre n'écoute pas, bien sûr, parce que les arbitres n'écoutent personne de toute façon, mais simplement un carton jaune à Ose Magic pour l'embrouille, quoi, mais pas du tout pour la morsure. Depuis la ligue anglaise, enfin la ligue qui fait les ligues inférieures en Angleterre, a ouvert une enquête. Il va prendre très très cher Ose Magic, et donc c'est pour ça nous rappelle un petit peu il nous a fait une petite Suarez, quoi.
Tiens, rapidement, Polo, il y a Vincent qui demande dans le chat, est-ce que Polo apprécie Queen? La France veut savoir.
Les vieux morceaux, oui.
Ok, ça fait un moment qu'ils n'ont plus fait grand chose. Le chanteur est occupé.
Non mais Barcelone 1992, beaucoup moins, quoi, tu vois.
Ah d'accord. 20h58, merci Polo, les drôles de dames qui sont là encore une heure. Julien Laurence, Polo, Fred Hermel et Johan Crochet dans un instant, justement. L'Allemagne, ce choc à venir entre le Bayern et le Bayer Leverkusen après un week-end exceptionnel. Et puis on parlera du derby milanais remporté par l'AC Milan. A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à 22h, Génération After.